Et voilà, c'est Onde Noire, deuxième partie. Jacques, je vais te laisser parler. Et ben je ne sais pas de quoi.
Et ben pour commencer cette deuxième partie, deux romans français qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, mais qui sont écrits par deux amis dans la vie, donc j'ai trouvé bien de les réunir dans cette Onde Noire. Les deux auteurs sont Luc Baranger et Michel Ambarek. Luc Baranger publie « L'extravagant Monsieur Parker » à la Manufacture de Livres. Michel Ambarek, « Une flèche dans la tête » chez Joël Losfeld. On va commencer par Luc Baranger. Et qui est donc cet extravagant Monsieur Parker dont veut nous parler Luc Baranger, justement? On sait que Luc aime la musique. Cela pourrait être donc le saxophoniste Charlie Parker. Mais l'auteur est plus fan de blues et de rock que de jazz, donc non, c'est pas lui. Il est aussi auteur de Polar. Alors pourquoi pas une bio revisitée de Parker, le héros de Donald Westlake? Eh ben non, toujours pas. Le Parker en question dans ce livre, Leroy Parker, c'est, suspense, c'est Billy the Kid. Il n'est pas mort, comme l'histoire le dit, le 14 juillet 1881, au Nouveau-Mexique, sous les balles du fameux Pat Garrett, puisque, en 1949, il est toujours bien vivant, bien que plutôt jeune, dans la belle ville d'Albuquerque. Enfin, je dis belle ville, je sais pas. Et c'est Maureen McLaughlin, sa femme de ménage, qui va apprendre un jour, de la bouche même de ce donc Leroy Parker, qu'il est sa nouvelle identité, en fait, qui est donc sa vraie, véritable identité, qui est donc Billy the Kid. Au cours de longues conversations avec la famille de Maureen, le lecteur va en apprendre plus sur la vraie vie de Billy. Comme souvent dans ses romans, Luc Baranger, qui est un fin connaisseur de l'Amérique, va nous raconter sa version, sa vision. Il va tordre la légende, la faire sortir des livres, la faire sortir des films pour la faire rentrer dans un roman noir. Le roman noir d'un petit gars qui n'a pas eu beaucoup de chance et qui a su se rebeller au bon moment. Certes, il a tué, parfois même de sang-froid, ou pour de mauvaises raisons, il est loin du bandit que l'on croit connaître. Finalement, il est assez proche du Billy the Kid de Sam Peckinpah, et aussi, d'une certaine façon, de la version un peu caricaturale qu'on trouve dans Lucky Luke. Mais bon, c'est du Luc Baranger, donc c'est en fait ni l'un ni l'autre. Ça fait longtemps que Luc Baranger n'avait pas publié de roman, probablement trop occupé avec ses multiples traductions, mais on retrouve ici son style intact, son art de la digression. Parce qu'il commence à raconter une histoire, et puis il part en boucle, et puis il revient finalement toujours. Ou ses petites piques contre la civilisation américaine. Un petit extrait. Donc c'est au cours d'un repas, il parle à Maureen. « Faites un effort, Maureen. Essayez d'imaginer le nouveau Mexique dans les années 1870. Un pays sans foi ni loi, sauf celle du plus fort, du plus riche, du plus corrompu. » Ça n'a pas trop beaucoup changé là-bas aux États-Unis.
C'est ce que j'allais dire, c'est en 1870, ça?
Oui, oui. On disait que le territoire, donc du Nouveau-Mexique, avait quatre devises. Tuer pour vivre, vivre pour tuer, tuer pour tuer, et vivre pour vivre. À chacun de choisir la sienne. Vous remarquerez que, en plus de ces petites piques, Luc Baranger ne se départit pas de son humour qui fait la caractéristique de ses romans, et aussi des références musicales. Alors évidemment, on est en 1870...
Il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de cette époque-là.
Non,
quand
voilà.
Même.
Enfin, on est à la fin, on est en 1849 quand même. Mais il en parle quand même. À un moment, il dit, ça c'est à la fois l'humour et la musique. Dans un bruit de casserole, maman s'affairait à la cuisine en chantonnant la mélodie débile à la mode. If I knew you were coming, I'd baking a cake. J'essaie d'écouter, on la trouve hein, sur. Mais ça, c'est effectivement pas terrible. Alors évidemment, qu'y a-t-il de vrai dans son roman? Tout, bien sûr.
L'écriture, on va dire.
Tout, bien sûr. Puisque pourquoi, après tout, Luc Baranger irait inventer une vie pareille à Billy the Kid, si ce n'était pas la vérité? À part
évidemment.
Peut-être pour faire un roman.
On passe donc au deuxième roman.
Roman du copain Michel Ambarek. Le roman s'appelle « Une flèche dans la tête ». Alors évidemment, si c'était le même thème que Luc Baranger, ça pourrait être un western. On voit très bien la flèche dans la tête tirée par un Indien ou tirée par un Indien sur un cow-boy. Ben, pas du tout. Car en fait, cette flèche dans la tête, c'est une migraine tenace, épuisante aussi d'ailleurs,
certainement, oui.
qui vrille en permanence dans la tête du héros de Michel Ambarek. Et d'ailleurs, la quatrième de couverture nous dit que c'est aussi le cas pour l'auteur lui-même. Alors, le héros de Michel Ambarek, c'est un vieux flic DRG, un ex-flic DRG plutôt. Il est à la retraite et il est, au début du roman, assis devant un mug de café et une plaquette d'analgésique à Memphis. Memphis, Tennessee. Il est au bar de l'hôtel Peabody, qui en son temps a vu traîner Elvis et Johnny Cash. Sa fille, pas celle de Johnny Cash évidemment, mais celle du flic, va le rejoindre depuis le Canada. Et ensemble, ils vont rallier le sud de Memphis, donc puis ils vont descendre jusqu'à le long de cette voie mythique qu'est la route 61. En fait, j'ai trompé de route. La 61.
L'autre, c'est la
61. La 61 est presque aussi célèbre que la route 66. En fait, la route 61, c'est la route du blues. Elle traverse tous les États-Unis, de la Nouvelle-Orléans au Wyoming, ou du Wyoming à la Nouvelle-Orléans, selon.
Je croyais que ça allait jusqu'à Chicago.
Non, ça s'arrête au Wyoming. J'ai vérifié. On se souvient tous d'ailleurs de l'album de Bob Dylan qui l'a revisité, il s'appelait Highway 61 Revisited, en 1965.
Mon accent n'est pas amélioré.
Pourtant j'écoute Bob Dylan et c'est peut-être à cause de ça. Dans le roman, l'ex-flic et sa fille vont essayer de se retrouver, plutôt tenter de se découvrir, car on peut pas dire qu'il était un père très attentionné pour sa jeune fille, bon, qui est maintenant adulte. Avant de prendre la route, ça c'est le côté polar, le père va récupérer un mystérieux étui de violon à l'aéroport. Alors évidemment, ne vous attendez pas à un roman d'espionnage, à une longue course-poursuite avec des gros flingues et des personnages patibulaires. Non, pas du tout. Les véritables héros du livre, ce sont la migraine, qui squatte le crâne du vieux flic en permanence, et le blues. Le blues, qui est tout le long de la route, c'est 12 mesures incantatoires qui parsèment donc le récit. Chaque en tête de chapitre, c'est un titre d'un blues, plus ou moins connu, qui forme en fait une très jolie setlist à la fin du roman. On peut s'écouter tout ça, on passera un très bon moment. Michel Ambarek, qui connaît très bien le pays et aussi cette musique, va nous distiller tout au long du roman quelques anecdotes sur cette route du blues. Cela pourrait d'ailleurs faire un très bon carnet d'un futur voyage. Clarksdale et Robert Johnson. Clarksdale, c'est une ville où Robert Johnson, il aurait fait un pacte avec le diable. Robert Johnson, qui a 3 tombes aux États-Unis. Et on ne sait pas laquelle c'est. Enfin, s'il y en a qui
tout
savent.
Le diable.
Enfin, non, on ne sait pas, mais il y en a qui savent, mais vont-ils nous le dire? On ne sait pas. Et aussi Jackson. Jackson, c'est une ville des États-Unis. Et Johnny Cash, évidemment. Johnny Cash, encore lui. Ou alors un très très beau passage le long de la route 61 au Mom's Truck Shop. Je ne veux pas vous raconter, mais c'est un très très beau moment. Il évoque même. Fantasme d'auteur de Michel Ambarek, une version du titre de B.B. King, The Thrill Is Gone, qui serait jouée par les cloches de Notre-Dame, lequel Notre-Dame avait les cloches à l'époque du roman.
Oui, je rappelle que ce livre a été écrit il y a quelques mois, on ne va pas en parler là.
On en saura tout de même un peu plus, par petites touches, tels des petits coups de pinceau, des traits de fusain, sur le passé du père et de la fille, sur leurs amours, leurs amères. Et oui, c'est du blues, les amours sont souvent amères. Quant au violon, qu'ils trimballent tout au long de la 61 dans leurs différentes voitures, il faudra presque attendre la dernière des 115 pages de ce court roman, court et dense roman noir, pour qu'il sorte de cet étui et qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi. Quant à la migraine, je vous rassure, elle reste et elle restera tout le long du livre. Un très beau roman noir et blues.
Bleu, noir et blues. Oui, le blues, c'est bleu.
Voilà.
On va passer un petit morceau de musique.
Eh ben, on parle de blues à l'instant. Donc, en voici un en souvenir de Philippe Carrez, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a quittés récemment. C'est un blues dont il a composé la musique. Il joue de la guitare et des claviers sur un texte de Patrick Reynal, qui dit ce texte. Et le morceau s'appelle « Notre-Dame de la Bavure ».
Se ressemblent toutes. Des bouts de béton, de ferraille, d'arbres nus, des relents de déprime, de pureté corrompue. Merde, je trouve pas la suite de mon blues. toujours comme ça. Le binaire est bien là. C'est les mots qui viennent pas. Le métro sent la pisse. Tous les métros finissent par sentir la pisse. C'est une sorte de poncif urbain, comme les flics qu'on fuit dans l'alcool et les gamines écartelées qu'on jette aux ordures après usage. Notre-Dame de la Bavure, ni Madone ni Colline, juste une station qui sentait déjà la pisse quand j'ai foré à coups de flingue le crâne plus si jeune d'un dealer qui croyait courir plus vite que ma peur. Notre-Dame de la Bavure. Jamais tiré avant ça. Jamais sur personne en tout cas. Seulement sur les cibles noires et menaçantes qu'on vous fait jaillir sous le nez au stand de tir de la police. Trop con, pas assez vieux pour être coupable. Depuis, je revois sans cesse le gamin qui rampait vers le corps de son père. Et je ne cherche plus mon flingue. Trop nul pour être coupable. Cherche une rime minable. Rien dans les douilles, rien dans les couilles. Trop nul pour être salaud. Cherche une rime à poivreau. Sur la ville vidée par le dimanche. J'ai les semelles et la cervelle détrempées. Un tas de flics entre deux serpillères. Tout ce que je sais, c'est que la gamine s'est perdue sur le chemin de l'église. C'était le jour de sa communion, m'avait dit sa mère. On lui avait même acheté une montre. Elle me demandait de la retrouver alors qu'elle en parlait déjà au passé. Les femmes sont sans illusion, surtout les mères. La mienne est morte avant de me voir hier. Mais ça n'a rien changé, vu que je l'avais déçu bien avant. C'est le genre de truc pour lequel j'ai toujours été précoce. Je me demande si la fille a été violée avant ou après sa communion.
Et voilà, donc c'était un Notre-Dame de la Bavure, extrait d'un album qui s'appelle Rouge Sumac, de dizaines de blues de Jean-Bernard Pouy et Patrick Reynal, mis en musique
par Philippe Carrez
et d'autres.
Nous allons terminer cette émission en compagnie de Marin Le Dain. Marin Le Dain qui fait publier, plus exactement, c'est pas lui l'éditeur, son dernier roman, À la série noire, avec une magnifique couverture, une chevelure rose, puisque le roman s'appelle La vie en rose. Alors Rose, elle fait partie de la famille Mabille-Ponce. Mabille-Ponce, cette famille, on l'avait découvert dans le précédent roman de Marin Le Dain, toujours à la série noire, qui s'appelait Salut à toi, mon frère. On va retrouver ici Rose, c'est la numéro 3 d'une fratrie de 6. Sur les 6 enfants, les 3 premiers sont des enfants naturels, on va dire, et les 3 suivants sont des enfants adoptés. Et alors Rose, là, elle est en pleine effervescence. Et oui, elle doit s'occuper de tous les autres de la fratrie. Alors évidemment, elle est une jeune adulte. Normalement, elle ne devrait pas s'occuper des 2 aînés. Mais il y en a un qui fait des pokers, voire des strip pokers dans un EHPAD où il travaille. Et ça, pour les cœurs des vieux, c'est pas bien vu. Donc elle a là quelques coups de fil. Et puis, il y a la numéro 4, donc celle juste après, Camille, qui elle est nulle en maths, très nulle en maths, très très nulle en maths, donc les nuages noirs de l'éducation nationale s'acharnent sur elle. Donc Rose, elle est obligée de s'occuper de tout ça, parce que les parents, tranquilles les parents, hein, Adélaïde et Charles, respectivement Adélaïde, féministe très contestataire, Charles, beaucoup plus bonhomme, beaucoup plus tranquille, clerc de notaire. Eux, ils sont partis se dorer la pilule à Tahiti. Et Rose, au début de ce roman, elle va se retrouver, en plus, elle découvre qu'elle est enceinte. D'où le titre « La vie en rose ». Et elle est enceinte d'un flic par-dessus le marché. Oui, dans la famille, ils n'aiment pas beaucoup ça. Les flics, je veux dire. Enfin, elle, elle l'aime bien. Elle l'aime même beaucoup, son flic. Son flic qui s'appelle Personne. Oui, c'est bizarre, un flic qui s'appelle Personne, mais c'est normal dans une famille où on n'aime pas beaucoup les flics. Et le pompon, la cerise sur le gâteau, ça va être le cambriolage du salon de coiffure de son amie Vanessa. Elle fait des lectures, parce que c'est un salon de coiffure très particulier, capilliculteur et culturel, où on lit des extraits de romans aux dames qui vont se faire coiffer. Peut-être même aux hommes, mais je ne sais pas si c'est un salon de coiffure mixte. Donc, Rose, là, elle explose un peu.
Ça doit changer de BFM TV.
Rose va s'en occuper de tout ça, mais évidemment, elle est un peu en pétard. On la retrouve souvent dans sa petite saxo, la voiture, hein, pas l'instrument de musique, évidemment. Ses polars en poche, parce qu'elle lit aussi beaucoup de polars. Et puis, les Beastie Boys à fond la caisse. Malheureusement, un jeune ami poignardé. En plus, il se retrouve ex-petite amie de sa sœur Camille. Là, la coupe est pleine. Mara Ledin, dans ce roman, promène un œil acide, corrosif, mais aussi empli de tendresse sur la société d'une petite ville de province, Tournon. Rose, la jeune punkette, va se battre, se débattre pour tordre tous les clichés, les stéréotypes qui collent à la peau de ses congénères. Les femmes enceintes, les flics, donc le futur père Richard Personne, semble ne pas vouloir tenir sa promesse de démissionner. Les profs de maths, c'est particulier, les coiffeuses. C'est donc un roman qui décoiffe, qui roule à fond la caisse sur les poncifs dans lesquels se délectent la plupart des homos, pas trop sapiens. La famille Maïbille-Ponce semble un rempart, en gros, contre la connerie humaine, surtout Rose dans ce roman, un havre de culture, une petite poche de résistance. Et les femmes à ce jeu-là sont les plus fortes. Adélaïde, Rose, Camille. Tandis que les conjoints et les frérots semblent suivre plutôt à l'insu de leur plein gré tout ce qui leur arrive. Bref, un roman drôle, iconoclaste, avec de beaux morceaux de critique sociale dedans, en filigrane. En prime, vous refermerez le livre avec de très très beaux conseils de lecture, la booklist de l'auteur, Harry Cruz et Erskine Caldwell en tête, quelques films à voir, quelques morceaux qui décrasent bien les oreilles à écouter. Que du bon. Donc, La vie en rose à la série noire. Mais il me reste une minute pour vous parler d'un très très court roman, donc une petite novella de Mara Ledin qui est parue il y a quelques semaines aux éditions Inuit. Ça s'appelle « Aucune bête ». Ça parle de Vera. Vera, c'est le personnage principal. Elle est coureuse de 24 heures non-stop. Et là, c'est la course qu'elle ne peut pas manquer parce qu'elle revient. Ça fait plusieurs années qu'elle a été interdite pour cause. Elle a été soupçonnée de dopage. C'était pas vrai. Donc elle veut combattre l'injustice. Elle veut combattre tout ce qui lui arrive de moche dans sa vie, son boulot, tout ça. Elle veut pas forcément gagner, mais elle veut se dépasser. Elle veut dépasser toutes ses conneries. Et puis, elle se retrouve face à une autre coureuse, l'Espagnole, Michelle Conago. Il va y avoir cet affrontement, il va y avoir la course, mais il y a surtout deux très très beaux passages sur les femmes, sur ce qu'elles subissent, sur ce que les hommes font subir aux femmes, sur tout le pouvoir qu'ils croient pouvoir avoir sur les femmes. Et ça, bravo et merci Mara Ledin, parce que c'est absolument super. J'ai plus le temps, donc aucune bête, Mara Ledin aux éditions Inuit. On vous dit au revoir, à la prochaine fois, chacun dans son coin avec un bon roman.
Ou plusieurs.